parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, la Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Océane Viala et le but de cet épisode est de vous éclairer sur la maladie de Parkinson dont vos bénéficiaires peuvent être atteints. Pour ce faire, j'ai interviewé pour vous le docteur neurologue Françoise Billet-Turc, chef du service de neurologie de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille.
Bonjour Océane, donc je suis le docteur Billet-Turc, neurologue de longue date et je m'occupe de la neurologie au sens large, Parkinson, épilepsie, Alzheimer, sclérose en plaques, maux de tête, etc., etc.
Aujourd'hui, vous êtes là pour nous éclairer spécifiquement sur la maladie de Parkinson, donc sur ses spécificités et surtout comment accompagner et prendre en charge les personnes atteintes de cette maladie pour aider en fait les auxiliaires de vie qui nous écoutent à mieux les comprendre et à mieux les accompagner. Pour rentrer directement dans le sujet, vous avez évoqué la maladie d'Alzheimer. C'est une autre maladie neurodégénérative qui est assez connue, on en entend beaucoup parler. Pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup moins parler de Parkinson et combien il y a de personnes touchées en France par cette maladie ?
Alors, on entend plus parler de maladie d'Alzheimer parce que c'est une maladie qui est plus fréquente, qui touche plus de personnes que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, on va dire que c'est 200 000 personnes environ en France. Après, c'est une maladie dont on parle selon les moments. Quand on a parlé des pesticides qui pouvaient donner des maladies de Parkinson, ça c'est parfois un buzz médiatique. C'est une maladie qu'on peut rencontrer chez des sujets jeunes, mais également chez les personnes âgées. Et c'est une cause de troubles de la marche chez les personnes âgées qui peut s'améliorer avec des traitements médicamenteux particuliers. Donc ça vaut la peine de faire le diagnostic. Parce que si quelqu'un a ce type de problème, parfois le fait de donner des médicaments qui contiennent de la dopamine peuvent améliorer la marche et le quotidien, la raideur, le tremblement éventuellement. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est connue de très longue date, hein, depuis presque 200 ans. C'est une maladie qui est dégénérative, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui meurent dans une zone particulière du cerveau et ces cellules apportent de la dopamine qui est un médiateur du bien-être et qui, quand il n'est pas assez présent, peut donner un ralentissement. Les trois signes classiques du Parkinson, ralentissement, ce qu'on appelle akinésie aussi, un manque de mouvement. Ça donne une raideur, ce qu'on appelle hypertonie, et ça peut donner un tremblement. Mais il y a beaucoup de malades de Parkinson qui n'auront jamais de tremblement tout au long de leur vie.
Vous avez un petit peu aussi défini ce que voulait dire neurodégénératif. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie qui est évolutive et qui va de toute façon empirer avec les années ?
Alors, c'est une maladie qui est évolutive, tout à fait. Quand on fait le diagnostic, en général, ça fait plusieurs années que la maladie évolue et... Il manque environ 70 à 80% des cellules qui fabriquent la dopamine quand on fait le diagnostic. Et il y a parfois des signes avant-coureurs de la maladie qui peuvent faire évoquer que cette maladie va arriver. C'est une constipation opiniâtre. Ce sont parfois des troubles de l'odorat et c'est parfois des troubles du sommeil, des troubles du comportement, sommeil paradoxal. Ce sont des personnes qui ont un sommeil de mauvaise qualité avec une agitation motrice dont ils oublient d'ailleurs le lendemain les effets. Mais parfois, si on dort avec un conjoint, on peut donner des coups, on peut se lever, on peut balancer les draps. Donc il y a des troubles du sommeil qui sont parfois difficiles à vivre si on dort à côté de quelqu'un. Et donc dégénératifs, ce sont des cellules qui s'abîment, comme dans chaque vieillissement normal, il y a des cellules qui s'abîment dans notre corps de façon globale, là sont des cellules qui s'abîment de façon accélérée, et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité de les régénérer ou de faire des greffes. On avait essayé de faire des greffes de cellules, ça n'a pas marché ou pas suffisamment. Donc c'est une maladie qui va évoluer plus ou moins rapidement selon les formes et selon les personnes. C'est très variable et on sait en tout cas que l'activité physique peut ralentir l'évolution de la maladie. Donc on préconise d'avoir une activité physique adaptée chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson.
On va tout à l'heure revenir sur quelles activités peuvent être proposées, notamment par les auxiliaires de vie, pour justement favoriser le bien-être de la personne. Quand une auxiliaire de vie prend en charge un malade, son rôle il va être extrêmement important, notamment pour l'aider dans les tâches quotidiennes, etc. Mais aussi pour l'observation de ces symptômes dont vous parlez, qui peuvent démontrer que la maladie évolue, ou même pour déceler en fait les premiers signes d'une maladie de Parkinson chez une personne âgée. Est-ce qu'on peut résumer un peu qu'est-ce que c'est ces symptômes ? Donc vous avez parlé du sommeil, est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Il y a beaucoup de signes qui sont souvent mal connus, comme des troubles de la déglutition, des problèmes de douleur un petit peu atypiques, des blocages digestifs, des impressions d'anxiété, d'angoisse quand les personnes sont bloquées. Donc il y a, dans le cours de la maladie, il y a des moments où grâce au traitement, le patient se sent comme normal, il peut marcher, il peut vivre quasi normalement. Il y a des moments où le médicament n'est pas assez efficace, où il faut peut-être l'augmenter, où il faut rapprocher les prises. Et à ce moment-là, on peut avoir des blocages avec des signes anxieux, des signes dépressifs, de sueur, des salivations, des douleurs, des tableaux un petit peu atypiques. Et souvent, il faut se faire raconter par l'entourage, d'où l'intérêt des observations par les personnels soignants, se faire raconter ce qui se passe. Et pour le personnel soignant, ce qui est important aussi, c'est de savoir que le malade est fluctuant dans la journée. Il y a des moments où il sera bien peut-être et des moments où il sera moins bien. Et si on doit l'aider, par exemple, pour la toilette, il faut peut-être lui donner le médicament qui l'améliore un petit peu avant pour permettre de qu'il fonctionne mieux au niveau des mouvements, qu'il puisse marcher. Donc, ne pas se précipiter. C'est quelqu'un qui ne fait pas exprès d'aller lentement. C'est son corps qui ne suit pas. Il y a parfois ce qu'on appelle une apathie aussi. Apathie, c'est-à-dire qu'on est dans un fauteuil, qu'on dit oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, mais on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à se lever ou à initier des actes. Donc pour le soignant, il faut respecter ces temps où le patient est en bonne phase, ce qu'on appelle les phases on, O-N, en majuscule, ou les phases off, O-2-F, où il est bloqué, où malheureusement, à ce moment-là, on ne va pas lui dire, allez, on va promener dans le jardin, il vaut mieux attendre et s'adapter au patient. Sont des patients qui sont lents si en cours d'évolution de la maladie, mais par contre, il faut favoriser au maximum leur autonomie en leur disant d'essayer de s'habiller seuls si on peut les laisser faire, même si ça prend beaucoup plus de temps que pour les autres, les laisser manger seuls, bien les positionner, bien arranger au fauteuil ou dans le lit pour qu'ils ne soient pas gênés. Éviter les obstacles aussi, si on est dans une chambre, par exemple, en EHPAD, éviter qu'il y ait des obstacles au sol parce qu'ils risquent de s'embroncher. S'ils sont à la maison, il faut éviter les tapis. Il faut faire attention dans les salles de bain aussi pour mettre éventuellement des rehausseurs au niveau des toilettes ou des poignées pour se tenir, pour se relever. Il y a des tas de petits conseils globalement, mais il faut surtout respecter le profil du patient.
C'est vrai que c'est difficile d'avoir cette bonne distance entre vraiment aider et en même temps maintenir l'autonomie de la personne. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de laisser la personne faire certaines tâches? Et comment être sûr que bon, là, c'est le moment que je l'aide ou là, c'est le moment qu'elle fasse seule?
En général, le personnel soignant connaît bien ce type de maladie et connaît bien les patients, en particulier quand ils sont là depuis un petit moment dans un service. Et je pense qu'il faut arriver à connaître ou demander aux infirmières ou aux médecins qui s'occupent du patient les moments où c'est préférable de faire la toilette. On sait que le matin au réveil il sera bloqué, c'est pas le moment de trop le stimuler. Il vaut mieux qu'il prenne les médicaments, se donner une demi-heure, une heure, le temps que le médicament agisse et réévaluer. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont un petit peu apathiques, donc il faut quand même les stimuler vocalement, les encourager en leur disant « Allez, vous allez y arriver, c'est bien », les récompenser de ce qu'ils font tout seuls et les inciter, même si ça prend du temps. Après, s'ils sont très fatigués, il ne faut pas hésiter à leur donner un coup de main, les aider à marcher. Peut-être s'ils ne marchent pas bien, se mettre devant eux, leur prendre les deux mains et marcher nous à reculons, lui devant, en lui disant « Allez, on relève la jambe, on lève la jambe, on lève la jambe », donc on incite. Souvent, la stimulation se fait aussi, si on compte 1-2, 1-2, on fait une marche militaire, ça peut aider. Des musiques un peu rythmées, ça peut aider aussi. Donc, il faut stimuler de façon assez globale et voir ce que le patient apprécie pour améliorer au maximum son autonomie. Après, il y a des personnes qui sont très autonomes toutes seules, mais il faut savoir qu'à certains moments, elles seront bloquées. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il ne faut pas qu'ils se mettent en danger, qu'ils ne soient pas dehors seuls ou dans un endroit où ils ne peuvent pas se relever s'ils tombent. Donc se méfier de tous ces éléments, ne pas hésiter à leur mettre à disposition une chaise si on doit faire un long trajet ou un déambulateur à roulettes ou d'autres aides par tierce personne ou au matériel.
On en vient aux activités donc, qui peuvent être proposées, que ce soit en intérieur d'ailleurs ou en plein air, qui peuvent être proposées aux personnes malades de Parkinson. Donc est-ce qu'il y a des activités, qu'elles soient manuelles, physiques, etc., à privilégier pour les accompagner au mieux dans la maladie?
Toutes les activités qui font plaisir aux patients sont bonnes à prendre. Selon les endroits de France, à Marseille, il y a eu de la capoeira qui a été mise en place. C'est ce sport brésilien qui est entre la danse et un sport de combat. sur la côte atlantique, ils ont fait du paddle, du stand de paddle. À Marseille, ils font du longe-côte, ils marchent, enfin, je pense que ça se fait ailleurs aussi, ils marchent dans l'eau au niveau du ventre, sur la plage, et ça stimule de façon globale. Après, chacun fait le sport qui lui convient le mieux. Il y a eu aussi, si on peut parler de sport, le tango. On sait que la marche en avant et en arrière, ce qu'on fait dans le tango, hein, reculer, avancer, ça peut aider. Donc si les personnes aiment la musique et la danse, c'est quelque chose de très profitable. Il y a des groupes parisiens qui ont mis en place quelque chose de très bien avec une association et une danseuse russe qui s'appelle Svetlana, qui les fait se lever et faire des pas de danse. Et même quand ils n'arrivent pas trop à se lever, le fait de danser sur leur chaise, de se mobiliser un petit peu, ça leur fait du bien à la fois psychologiquement et physiquement. Il y a différentes activités, on peut faire toutes les activités qui peuvent faire plaisir. Par exemple, là, on a découvert récemment que le ping-pong, ça pourrait aider dans la maladie d'Alzheimer. S'il y a un parkinsonien qui se sent de faire du ping-pong, ça peut l'aider aussi. Donc, on peut faire des activités globales tant qu'on a une activité physique. Il faut surtout insister sur une activité physique et si on est fatigué, se reposer, puis reprendre l'activité physique un peu plus tard. Ne pas se dire « Ah, j'ai fait 3 heures, 3 heures, c'est trop ». Il faut savoir se limiter en temps. Quand on est fatigué, on se repose, puis on repart après.
Et pour les activités manuelles, est-ce que c'est vraiment important de garder, par exemple, l'écriture à la main, des choses créatives, minutieuses, quand c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment recommandé ou pas forcément?
De plus en plus, les gens n'écrivent plus. Donc, s'ils sont pas gênés par l'écriture, qu'ils n'ont pas besoin d'écrire à ce moment-là, que ça les intéresse pas, ils le font pas. Moi, je recommande aux patients parkinsoniens qui se plaignent de l'écriture de faire des pages d'écriture. Mais c'est parfois un petit peu fastidieux et je suis pas sûre que ce soit toujours très agréable. Toutes les petites activités manuelles, alors quand on est peu mobile, parfois on peut faire ce qui se fait parfois aussi en EHPAD. D'ailleurs, faire des petits lancers de ballon, là on s'assoit à plusieurs et on lance le ballon à l'un à l'autre, ça peut aider. Faire des petits mouvements avec les mains, des petits pianotages. Après, tout ce qui est dessin, mais ce type mandala, on peut faire des dessins, faire du tricot pour les femmes ou les hommes qui aiment faire du tricot. Tout ce qui est activité manuelle est recommandé aussi. Mais de façon globale et en fonction de ce que la personne aimait faire. S'il était bijoutier horloger, s'il arrive à refaire des petits montages, ça peut valoir la peine aussi.
Oui, donc finalement, il faut aussi surtout communiquer avec la personne pour vraiment savoir ce qui lui parle, quoi.
Ouais, je pense que les aides-soignantes ont un sens humain beaucoup plus développé que nos médecins. Et elles connaissent bien la façon d'améliorer les choses. Et je pense qu'elles ont beaucoup à apporter. Et en fait, elles nous apportent beaucoup parce qu'elles nous disent « Ah là, il est mieux en faisant ça, il est mieux comme ça. » Et c'est nous qui pouvons apprendre beaucoup d'eux en fonction des horaires. Donc, le personnel soignant au sens large est d'un grand secours pour les médecins. Voilà.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu aux questions. Vous venez d'écouter La Pause Santé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de La Pause Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com